Europe 1 Culture Média.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravi de finir la semaine avec vous et Culture Média au menu, médias et culture au sens large, tous les médias, toutes les formes de culture. Aujourd'hui on va parler séries et cinéma, et comme nous sommes vendredi, il y aura également l'actualité et les coulisses du sport business avec Sacha Nokovic du journal L'Équipe. Vous retrouverez aussi par ordre d'entrée en scène Rémi Jacob pour le journal des médias et les audiences télé d'hier soir qui sont en train de tomber sur son ordi, Bruno Donnet pour ses télescopages et Jean-Luc Lemoine et sa session de rattrapage. Notre info média, Trump sur les réseaux sociaux, le retour. Mercredi, Meta annonçait la fin du bannissement de Trump sur Facebook. Respect de la pluralité ou cynisme mercantile? On en parle avec Thomas Huchon, il est prof à Sciences Po, spécialiste des fake news et des choses de ce genre. Et Catherine Gentil, ancienne correspondante de TF1 à Washington, qui connaît bien le sujet. Notre invité culture ensuite en deuxième heure, ce sera la comédienne Masha Merrill pour une pièce, Une étoile, l'histoire d'une ancienne danseuse qui fait le point sur sa vie et qui ressemble assez furieusement à Masha Merrill. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, Culture Média, c'est parti.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Rémi Jacob.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Au sommaire de votre journal des médias.
Une plainte en justice suite à la diffusion d'un reportage de Zone Interdite également. L'incroyable histoire d'une série française qui cartonne en ce moment sur Netflix. On entendra sa productrice. Et puis, une info Europe 1, on vous dévoilera ce matin dans Culture Média le nom du président d'honneur de la prochaine cérémonie des Victoires de la Musique. Alors, qui pour succéder à Stromae? Eh bien, réponse à la fin de ce journal.
Mais d'abord, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le top 3.
Et c'est TF1 qui arrive en tête avec la série Balthazar, 5,4 millions de téléspectateurs, soit 26,5% du public. À la deuxième place, on retrouve France 2 avec Cash Investigation, 1,6 million de téléspectateurs, soit 10,1% de part d'audience pour ce numéro consacré au greenwashing des entreprises. C'est en baisse par rapport au précédent numéro diffusé en décembre dernier. Et puis France 3 clôture ce podium avec le film 2012 de Roland Emmerich, 1,5 million de téléspectateurs et 8,7% de part d'audience.
1, 2, 3.
Europe 1, le journal des médias.
On démarre ce journal avec une plainte en justice contre l'émission Zone Interdite sur M6.
Oui, et ça concerne un reportage diffusé il y a tout juste un an. C'était en janvier 2022. Il était consacré à l'islamisme radical. Il avait valu à sa présentatrice Ophélie Meunier des menaces de mort. Et on a appris hier que deux personnes ayant participé à ce reportage ont porté plainte pour escroquerie et provocation à la haine. Une plainte qui vise la réalisatrice, mais également la chaîne M6 et Tony Comity Productions, la société qui avait produit ce sujet. C'est ce qu'ont annoncé l'avocat des plaignants, les avocats, qui dénoncent notamment, je cite, une trahison de la journaliste et affirment que ses clients ont été trompés, manipulés et escroqués. J'ai joint hier soir Maître Richard Malka, c'est l'avocat de Tony Comity Productions, et pas de quoi s'affoler selon lui.
N'importe qui peut déposer plainte pour n'importe quoi, c'est un droit. C'est un reportage qui relève de l'essence même du journaliste. Il y a des polémiques, il y a des accusations. Très bien, on va en discuter.
Maître Richard Malka, qui m'a également expliqué que les pratiques journalistiques de son client sont, selon lui, irréprochables, et d'expliquer, je cite, que ça n'est pas en multipliant les procédures, les menaces de mort et les pressions de toutes sortes que l'on empêchera les journalistes de faire leur métier. Fin de citation.
Ça, c'est le to-doom de Netflix. Vous allez nous parler de la plateforme et plus précisément d'une série française qui y bat des records.
Ouais, c'est une histoire assez incroyable, Philippe, celle d'une série française qui s'est hissée dans le top 10 des séries les plus vues en ce moment sur Netflix. Dans une soixantaine...
Netflix.
Exactement, et cela dans une soixantaine de pays ces derniers jours. Elle était notamment la troisième série la plus regardée aux États-Unis, et il s'agit des Combattantes, une série diffusée sur TF1 en septembre dernier au casting Audrey Fleurot, Sophia Essaïdi, Camille Lou et Julie de Bonnat, quatre femmes dont on suit le destin pendant la Première Guerre mondiale.
Vous voulez faire quoi quand tu es à la ligne de front?
Je viens travailler.
T'inquiète pas, dans un mois je serai rentré. Je te le promets.
Ces hommes ne sont pas en état de se battre. Mon Dieu, aidez-moi. Que dois-je faire? Mon mari est parti avant-hier.
Il faudrait transformer l'usine pour fabriquer des munitions.
J'ai demandé à Iris Bucher, productrice de la série et PDG de la société Quadrama, de nous expliquer pourquoi, selon elle, la série est un tel carton sur Netflix. Et vous allez l'entendre, il y a trois principales raisons.
La série parle de quelque chose d'extrêmement universel qui est la guerre, la Première Guerre mondiale. Et au-delà de cette universalité-là, elle choisi un prisme très original qui est celui des femmes. Je pense que le succès est dû aussi aux soins qu'on a apportés à la série à tous les niveaux, à savoir le casting qui est, je pense on peut l'appeler un casting 5 étoiles. Il y a aussi l'ampleur de la série. On a vraiment pas lésiner sur les moyens. On fait une série de guerre, donc il faut des scènes de guerre dignes de ce nom, avec le nombre de figurants qu'il faut. Donc les moyens que nous avons mis à la fois du côté de TF1 et de Netflix contribuent beaucoup à la qualité de la série et donc à son succès.
On reste dans le domaine de la fiction avec des nouvelles de la série que prépare Édouard Philippe.
Et oui, un ancien Premier ministre qui planche sur une série pour France Télévisions avec son acolyte de toujours, le député européen Gilles Boyer. Il s'agit de l'adaptation de leur roman paru en 2011, un ouvrage baptisé Dans l'ombre. Ça raconte l'histoire d'un apparatchik qui œuvre en coulisses pour faire élire un candidat à l'élection présidentielle et pour écrire le scénario. Édouard Philippe et Gilles Boyer se sont fait aider par des auteurs qui ont rencontré, c'est assez amusant, plusieurs politiques, dont François Hollande, c'est ce qu'on apprend dans un article de Vanity Fair qui est consacré à ces deux apprentis scénaristes. On ignore encore le casting de cette série, mais on sait qu'elle comportera 6 épisodes et qu'elle sera tournée entre avril et juillet.
On part sur France 2 qui diffuse demain soir un grand concert événement.
Il s'agit du Gala des Pièces Jaunes, c'est en association avec la Fondation des Hôpitaux. C'est un grand concert qui a été enregistré cette semaine au Zénith de Paris avec un casting de très très haute volée. Pharrell Williams, Mika, Angèle ou encore Michel Polnareff. Rien que ça. Et ça sera également la toute première télévision française de Blackpink. Pour ceux qui ne connaissent pas ce phénomène mondial, c'est un groupe de K-pop, de pop coréenne. Il est composé de 4 filles et leur musique ressemble à ça. Et donc vous verrez cette prestation au cours de ce grand concert, un programme qui sera diffusé exceptionnellement à 20h40 et non pas à 21h10. Le prime commencera donc plus tôt et c'est une manière d'événementialiser l'antenne de France 2, comme l'explique Alexandra Redamiel, c'est la directrice des divertissements de France Télévisions. On l'écoute.
Là, on avait envie, à l'instar de ce qui avait été fait sur le Liban et sur l'Ukraine, de continuer à événementialiser nos programmes. D'où le fait que c'est l'unité culture avec Michel Field et donc mon unité des divertissements. On se marie le temps d'un instant pour créer vraiment quelque chose qui soit emblématique. Et c'est un vrai cadeau, en fait. Et avec la Fondation, avec Brigitte Macron et toutes les équipes, il y a eu vraiment cette envie d'offrir, de remercier toutes les spectateurs, téléspectateurs qui donnent à chaque instant et toute l'année pour les pièces jaunes.
Alexandra Redamiel au micro de Culture Média. Et pour envoyer un don pour les pièces jaunes, c'est très très simple. Il suffit d'envoyer le mot don par SMS au 92 111. C'est très simple. 5 euros sont alors reversés à la Fondation des Hôpitaux.
Oui, il ne faut pas envoyer une pièce jaune par la poste. On reste sur France 2 avec une info Europe 1, info qui concerne les Victoires de la Musique.
Une cérémonie qui aura lieu le 10 février prochain. Ça sera en direct depuis la scène musicale. C'est en région parisienne. Et comme chaque année, il y aura un président d'honneur. C'est toujours un moment très attendu, l'annonce de ce président. Lors de la précédente édition, c'était Stromae. Et cette année, nous sommes en mesure de vous révéler ce matin sur Europe 1 le nom de celui qui va succéder au chanteur belge. Je vous propose de le découvrir en musique, cher Philippe. Et chez vous, évidemment, vous pouvez également jouer. C'est parti.
Face à la mer, c'est pas le commandant Cousteau.
Et donc c'est Philippe
Calogero.
Et évidemment, vous l'avez reconnu, auteur, compositeur, interprète, artiste, multicasquette. C'est donc lui qui présidera cette 38e édition des Victoires de la Musique. Un choix qui s'est imposé comme une évidence, comme l'explique Alexandra Redamiel, patronne des divertissements de France Télévisions.
Calogero, il fait partie de ces artistes emblématiques qu'aiment les Français, qui est un auteur-compositeur formidable, qui écrit pour les plus grands, qui a un répertoire musical extraordinaire. Ça faisait longtemps aussi qu'on ne l'avait pas vu, et c'est vrai qu'on est très honorés de pouvoir l'accueillir. C'est un artiste complet qui ressemble aux Victoires.
Alexandra Redamiel, la cérémonie des Victoires de la Musique à voir le 10 février prochain sur France 2 en direct évidemment. Merci beaucoup Rémi Jacob, à lundi pour un nouveau journal des médias en direct évidemment. Dans un instant, notre info média du jour, Trump est revenu sur Facebook, ou plutôt Facebook l'a laissé revenir. Est-ce que c'est là le respect de la pluralité ou alors du cynisme mercantile? On en parle avec Thomas Huchon, prof à Sciences Po, spécialiste du conspirationnisme, et Catherine Gentil, ancienne correspondante de TF1 à Washington sous l'ère Trump justement. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Trump sur les réseaux, le retour. Mercredi, Meta annonçait que l'ancien président et futur candidat aux prochaines élections présidentielles américaines était de nouveau autorisé à utiliser Facebook et Instagram 2 mois après Twitter. 2 ans après l'assaut du Capitole qui lui avait valu ses suspensions, tout semble donc effacé et le spectacle peut reprendre. Et là, on se pose la question, est-ce là le respect de la pluralité des idées ou alors une volonté un peu cynique de capitaliser sur le business de la colère pour ces réseaux en difficulté financière? Pour en parler, Thomas Huchon, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes à distance avec nous, vous êtes journaliste d'investigation, prof à Sciences Po, spécialiste des fake news et co-auteur de Anti-Fake News aux éditions First. Vous êtes à distance parce que vous avez eu un heureux événement dans votre famille.
Oui, effectivement. Ouais. À chaque fois que je viens vous voir, il faut croire qu'il y a quelque chose de sympa qui se passe dans ma famille.
Ouais, il faut dire ce qui s'était passé à la naissance de votre premier enfant.
Bah, c'était le lendemain de la défaite de Donald Trump en 2020. C'était le petit Achille qui était arrivé et dont vous aviez mentionné le nom. Et là, c'est une petite fille.
Le prénom en primeur. Alors, comment s'appelle-t-elle cette petite fille qu'on salue?
Elle s'appelle Isée et j'espère qu'elle ne sera ni sur Facebook ni sur Instagram.
Catherine Gentil, le débat est déjà posé. Catherine Gentil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à l'international, éditorialiste à l'international, mais aussi journaliste sur TF1 et sur LCI, ancienne reporter de guerre, prix Albert Londres. Vous avez des correspondantes de TF1 à Washington pendant la présidence de Donald Trump, donc vous l'avez observé de près. Je vais commencer avec vous, à votre avis. Qu'a ressenti Trump à cette annonce de Meta, le retour de ses comptes Facebook et Instagram? Une jubilation, un esprit de revanche?
Les deux, mon général. Ah. Je pense qu'il a été absolument ravi et qu'effectivement, il a eu le sentiment de tenir sa revanche. Parce que, évidemment, depuis qu'il avait été banni, il considérait que c'était la plus grande des injustices, que ça faisait partie du grand complot qui voulait justement le repousser de la scène politique américaine, l'entraver dans sa volonté de se présenter à la prochaine présidentielle. Mais en même temps, ça va lui enlever un argument, parce que justement, depuis qu'il avait été banni des réseaux sociaux, il expliquait que c'était le complot précisément contre lui et que donc il fallait faire masse derrière lui, qu'il fallait le soutenir et qu'il fallait lutter contre tout ce marais, comme il l'appelle, washingtonien, c'est-à-dire le pouvoir à la Maison-Blanche et ailleurs, pour redonner au peuple qu'il est censé représenter, justement, le pouvoir. Donc là, il ne va plus pouvoir jouer là-dessus. Mais voilà, en tout cas, il va être content.
Il ne peut plus se victimiser.
Exactement.
Thomas Huchon, en revanche, vous, cette décision des GAFA vous met en colère. Parce que ce n'est pas une décision uniquement de Meta, mais il y avait aussi celle de Twitter précédemment.
Mais effectivement, on a eu un petit peu au moment du mois de novembre, hein, quand Elon Musk, le nouveau patron de Twitter, a décidé de réinstaller Donald Trump sur sa plateforme. C'était un peu le fait du roi. C'est-à-dire qu'on sent bien que Elon Musk fait un peu ce qu'il veut, quand il veut, sur sa plateforme. C'est un peu son joujou. Là, c'est une décision qui est un peu différente. À la suite de tout un tas d'événements liés à la désinformation, au complotisme, à des actions violentes aux États-Unis menées à la suite de contenus qui circulaient sur Facebook, Facebook a été un peu obligé de créer un comité de surveillance indépendant. Et en fait, là, c'est ce comité de surveillance indépendant qui a recommandé à la plateforme de Mark Zuckerberg de réinstaller Donald Trump. Donc, c'est pas une décision qui est un peu, je dirais, un peu foutraque comme celle qu'a pu prendre Elon Musk et dont on connaît ni vraiment les motivations ni les intérêts. Mais là, on voit que c'est quand même une vraie décision de gens qui ont pesé le pour et le contre. Et en gros, leur critère, c'est de dire que Donald Trump devait être banni à la suite des incidents du Capitole sur lesquels nous reviendrons peut-être.
Exactement, on va en revenir.
Ce bannissement devait être limité dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pouvait pas le condamner ad vitam aeternam, alors que tout un tas d'autres gens pensent le contraire. J'en fais partie. Il faut dire que Donald Trump a quand même incité certains citoyens américains à réaliser un coup d'État sur le Capitole début 2021 et qu'il s'est servi de Facebook pour le faire.
Ouais, Thomas Huchon, vous avez tweeté ceci. Encore une mauvaise décision des GAFA, comme si on n'avait pas déjà assez de problèmes. Les plus gros diffuseurs de fake news, le plus gros diffuseur de fake news aura donc son hyper mégaphone pour manipuler les foules. Et là, j'ai envie de vous demander, pas de liberté pour les ennemis de la liberté ou alors pas de liberté pour les défenseurs autoproclamés de la liberté?
En fait, le problème de Donald Trump, c'est qu'il brouille toutes les cartes et toutes les pistes. C'est quand même celui qui a prononcé 4% de propos vrais durant l'année 2016, qui est celle qui lui a permis d'accéder à la présidence américaine. Et en même temps, c'est celui qui utilise le plus le terme de fake news pour désigner les journalistes sérieux, professionnels aux États-Unis. Donc déjà, il crée une espèce d'univers dans lequel plus rien n'a de sens. Et en fait, le vrai problème qui se pose aujourd'hui, c'est pas tant est-ce que Donald Trump a la liberté de s'exprimer. Il a la liberté de s'exprimer. Il a accès à tous les médias quand il le souhaite. Et il peut dire absolument ce qu'il veut. La question, c'est est-ce que ce personnage respecte les conditions d'utilisation de ces plateformes ? Ou alors, est-ce que les plateformes pour Donald Trump créent un espèce de double standard où il lui permettrait à lui de diffuser des fausses informations qui incitent à la violence ou à des comportements sanitaires complètement dingues, hein. On se rappelle quand même qu'il suggérait l'idée de boire de l'eau de Javel, hein, contre le Covid-19.
Pardon de rire, mais je me souviens de ça. Ouais. Mais voilà. Alors, pour comprendre la situation actuelle, pardonnez-moi, je voudrais qu'on entende et qu'on revienne au début, aux prémices. Pour comprendre la situation actuelle, il faut revenir 2 ans en arrière. Donc, Catherine Gentil, vous étiez à Washington le 6 janvier 2021. Vous êtes en train de préparer un sujet pour le 20h lorsque vous entendez ceci.
We will never give up, we will never concede. We're going to walk down to the Capitol.
Nous n'abandonnerons jamais, nous ne concéderons jamais, nous allons nous rendre au Capitole. Catherine Gentil, quand vous entendez ça, vous êtes en train de préparer un sujet, vous êtes avec votre JRI, vous dites quoi ? Que Trump est devenu fou ? Que c'est le début d'un coup d'État ?
Oui, je me souviens, on y était donc pour TF1 et LCI avec Mathieu Derrien, hein, le JRI, le caméraman de TF1. Et je me souviens que là, on s'est quand même regardé en se disant qu'il vient de passer une ligne rouge. Alors, évidemment, on n'a pas du tout imaginé que les gens allaient prendre d'assaut le Capitole, mais on s'est dit effectivement qu'ils jetaient de l'huile sur le feu, c'était le moins qu'on puisse dire. Mais vraiment, on n'avait pas imaginé que ça allait se passer parce que jusque-là, c'était plutôt une manifestation bon enfant. Il y avait des familles avec des poussettes, etc. etc. Mais dire publiquement qu'on contestait le résultat de la présidentielle de la première démocratie du monde, là, c'était vraiment un énorme choc. Parce qu'on ne pensait pas quand même qu'il irait jusque-là, même si évidemment, c'était la petite musique des jours qui venaient de s'écouler. Et là, c'était effectivement, pour un président des États-Unis, c'était absolument stupéfiant.
L'assaut du Capitole n'aurait pas été possible sans Twitter, sans Facebook. Comment Trump a utilisé ses réseaux ?
Ben, il les a utilisés d'une manière très simple. Il avait des dizaines de millions de followers, donc il suffisait qu'il envoie un message pour que ça se répercute comme une onde de choc. Mais moi, je suis pour qu'il revienne sur les réseaux sociaux,
ah oui, pourquoi ?
Contrairement à Thomas. Mmh. Mais parce que d'abord, sinon il faudrait interdire à tous ses followers d'être sur les réseaux sociaux, parce que c'est un très bon exemple ce qui s'est passé le 6 janvier. C'était un meeting, c'était la bonne vieille école du meeting où vous avez l'homme politique devant ses sympathisants qui tient un discours et qui justement, accessoirement, dit « c'est inadmissible, on est en train de voler notre victoire », etc. Donc, même s'il ne l'avait pas, lui, dit sur les réseaux sociaux, tous les gens qui étaient là l'auraient évidemment diffusé. Donc, de toute manière, il faudrait sinon bannir toute une partie de la population américaine des réseaux sociaux parce que ça n'arrête pas les messages qui sont diffusés de cette manière. Et il pense la même chose que Donald Trump. Et quand, en plus, vous le bannissez, Donald Trump, il utilise ce que je disais tout à l'heure, cet événement, pour dire qu'il est une victime et que vraiment, il faut que ses sympathisants soient encore plus déterminés pour défendre, entre guillemets, la démocratie américaine. Donc, je pense que c'est symboliquement, effectivement, interdire Donald Trump, c'est quelque chose de puissant. Mais dans la réalité, je pense que ça ne sert pas à grand-chose parce que ses idées continuent à être diffusées largement dans l'opinion publique américaine.
On est au cœur de notre sujet. Faut-il ou non interdire les réseaux sociaux à Donald Trump ? Vous ne pensez pas comme Thomas Huchon, ça tombe très bien. On marque une courte pause, on va entendre la réponse et les arguments de Thomas Huchon. Culture Média continue. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Notre info média du jour, Trump autorisé à utiliser Facebook et Instagram 2 mois après avoir été autorisé à utiliser à nouveau Twitter. Ça faisait suite, ces interdictions, ces bannissements, évidemment, après l'assaut du Capitole. Catherine Gentil, ici, est notre invitée éditorialiste à l'international sur TF1 et LCI. Et Thomas Huchon, journaliste et prof à Sciences Po et spécialiste notamment des fake news. Catherine Gentil estimait, contrairement à vous, Thomas Huchon, que c'est pas forcément une mauvaise chose que Trump soit autorisé à revenir sur les réseaux sociaux. Vous avez entendu ces arguments, je ne vais pas les résumer. C'est pas une émission de débat ici, mais que répondez-vous à ces arguments ? Pourquoi, selon vous, est-ce une mauvaise chose que Trump puisse revenir sur les réseaux sociaux ?
Déjà, je veux dire que je partage une partie de l'analyse de Catherine et que je respecte bien entendu totalement son immense expérience de la politique américaine. Je crois qu'il y a quelque chose qui a un petit peu changé aux États-Unis, mais dans le reste des pays du monde, c'est que ces outils numériques comme Facebook, Twitter, Instagram, que nous utilisons toute la journée, ils modifient la manière dont se diffuse l'information. Et le problème, c'est pas tant que Donald Trump y ait ou non une tribune, c'est que les algorithmes qui donne de la visibilité au contenu, c'est-à-dire ce qu'ils vont faire en sorte que vous allez voir passer telle ou telle information sur Facebook ou sur Instagram, eh bien, ils vont plutôt avoir tendance à pousser les contenus un peu outranciers, qui incitent à la colère, à l'indignation, qui jouent sur nos émotions, comme les fake news de Donald Trump, que la contradiction de ces mensonges. C'est plutôt dans cette logique-là qu'il se passe quelque chose. Après, il y a quand même quelque chose qu'il faut rappeler dans cette situation aux États-Unis. Pourquoi Twitter réinstalle Donald Trump? Pourquoi Facebook réinstalle Donald Trump? Eh bien, grosso modo, il y a une espèce de nouvelle concurrence que nous, on voit pas très bien en France parce que ces réseaux n'ont pas beaucoup de visibilité dans notre pays, mais aux États-Unis, il existe des réseaux sociaux d'extrême droite. Ils s'appellent Gab, Parler ou Truth Social. Truth Social, dont Donald Trump est lui-même actionnaire et l'un des fondateurs. C'est quand même assez cocasse d'appeler Truth Social, donc la vérité sociale, un réseau pour Donald Trump qui est quand même le champion des fake news.
Pardonnez-moi, c'est le principe. Hein. La Pravda, ça ne dit pas que la vérité. Et la Corée du Nord, la Corée du Nord se prétend un régime démocratique. C'est souvent en antiphrase qu'on raisonne dans ces moments-là.
Exactement, c'est d'ailleurs le conseil qu'on donne dans les écoles. Quand ton journal vous dit, s'appelle la vérité, eh bien vous pouvez être à peu près sûr qu'il vous ment. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus, comme un régime qui se prétend démocratique par définition est souvent une dictature qui se cache.
Alors attendez, je reviens à votre argument, Thomas Duchamp, je reviens à votre argument. Vous dites qu'il y a des nouveaux réseaux qui se lancent, et donc les réseaux sociaux, j'allais presque dire à l'ancienne, Twitter et Facebook sont obligés de riposter.
Ben oui, parce que comme Catherine le disait, il y a énormément de gens qui soutiennent les idées et les fake news diffusées par M. Trump. Et ces gens-là, ben, ils ont un petit peu migré de Facebook, Twitter et Instagram vers d'autres plateformes depuis 2 ans. Et donc, c'est aussi un enjeu pour Twitter comme pour Facebook de retrouver ses clients. C'est-à-dire que si Facebook et Twitter n'est plus le lieu du débat, c'est-à-dire l'endroit où peuvent s'exprimer toutes les positions politiques, eh bien, ils y perdent quelque chose. Il faut quand même rappeler quelque chose pour vos auditeurs, c'est que c'est pas parce que Facebook a réinstallé Monsieur Trump sur son réseau que Monsieur Trump va y retourner. En l'occurrence, il est sur Twitter depuis 2 mois, il n'a toujours pas fait de tweet. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a un accord d'exclusivité avec Truth Social, le réseau dont il est un peu le parrain et l'un des financeurs. Il a 6 heures d'exclusivité avec ses réseaux. 6 heures, ça vous semble très court, mais dans l'esprit de Twitter et de Facebook, c'est une éternité. Et donc pendant 6 heures, à chaque fois que Donald Trump s'exprime, il doit donner la primeur de ses messages à Truth Social. Donc, est-ce qu'il va vraiment retourner sur ces plateformes? On n'en est pas certain. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que ces plateformes qui avaient plutôt une image un peu libérale, un peu de gauche, un peu progressiste, eh bien, elles vont désormais être obligées d'aller chercher des courants réactionnaires, des personnalités beaucoup plus controversées, parce que comme elles ont quitté les plateformes, eh bien, les followers, les gens qui apprécient ces discours-là, s'en vont aussi. D'accord. Et donc, il y a un enjeu économique pour les plateformes à récupérer tous ces discours.
Catherine Gentil, le communiqué de Meta promet que si l'ex-président publie à nouveau des contenus qui incitent à la violence, je cite, « la publication sera retirée et il sera suspendu entre 1 mois et 2 ans en fonction de la gravité de l'infraction. Croyez-vous à cette menace ? S'il y a 2 jours d'une élection, Trump conteste d'avance les résultats, ils vont vraiment le suspendre ?»
Oui, je pense qu'ils l'ont déjà fait une fois et qu'ils pourraient le refaire, hein, parce qu'effectivement, ça, c'est la limite, c'est vraiment la ligne rouge. Pour tout ce qu'il pourra dire avant, évidemment, il pourra s'exprimer librement, mais si, de nouveau, il commence à contester le résultat des élections, qu'il appelle à des manifestations et éventuellement à retourner au Capitole, évidemment qu'il sera suspendu, et je pense plutôt 2 ans qu'un mois. Donc, il est en liberté surveillée, pourrait-on dire, sur Twitter, Instagram et Facebook. Hein. Mais ce qui lui servira aussi, d'ailleurs, à récolter de l'argent pour sa campagne électorale. Hein. Ce n'est pas seulement le fait de s'exprimer et l'intérêt de revenir sur ses réseaux sociaux pour lui. C'est un moyen aussi de pouvoir collecter de l'argent pour entreprendre la prochaine présidentielle où on risque de se retrouver avec Donald Trump, qui aura 78 ans, je crois, et Joe Biden, 82. Hein. Ça, c'est accessoire, mais le renouvellement de la classe politique américaine, il serait peut-être temps d'y penser. Hein.
Et au-delà de la dimension politique, est-ce qu'il y a une dimension business? Le retour de Trump, c'est un enjeu économique pour Facebook et Twitter ou pas? alors que c'est en tout cas un enjeu politique pour Trump, est-ce qu'ils peuvent se priver de ce produit d'appel ? Meta et Twitter, on le sait, sont en difficulté financière. Mmh. Début novembre 2022, en l'espace de quelques jours, Twitter a annoncé le licenciement de 7 700 salariés et Meta de 11 000. Il y a aussi cette dimension-là à prendre en compte ?
Et il y a bien sûr cette dimension-là. Et puis il y a une autre dimension, c'est qu'à partir du moment où Donald Trump annonce qu'il va être candidat à la présidentielle, vous imaginez qu'on ne peut pas se priver quand même de la parole d'un des candidats qui pourrait redevenir président des États-Unis d'Amérique. Ce serait complètement paradoxal dans un pays où, dans la Constitution, il est inscrit le droit à la liberté d'expression. Et pour aux États-Unis, alors évidemment, pour nous, c'est très choquant, mais vous pouvez avoir des propos justement de nazis, enfin les pires choses. Vous pouvez les dire à un endroit ou à un autre parce que justement c'est dans la Constitution et qu'on n'a pas le droit de vous interdire de vous exprimer. Donc vous imaginez pour un ancien président des États-Unis qui est peut-être un futur président des États-Unis, lui interdire la parole en Amérique, ça ne peut pas durer très longtemps. Et même en termes de démocratie, est-ce que vous imaginez un pays où un candidat à la présidentielle n'aurait pas le droit de s'exprimer sur certaines plateformes ? C'est inimaginable.
C'est inimaginable pour vous également, Thomas Huchon. Ça sera ma dernière question.
Oui, oui, c'est inimaginable. Et je pense que vous avez raison de poser la question du business. Donald Trump, durant sa campagne de 2020, c'est plus de 100 millions de dollars investis en publicité ciblée sur Facebook. Donc tout ça, c'est aussi une histoire de gros sous. C'est aussi une histoire, comme l'a rappelé Catherine, d'avoir la pluralité totale des idées politiques aux États-Unis, où ils ont une vision des choses très différente de la nôtre. On verra ce que ça va donner. En tout cas, pour l'instant, 2 mois après, il n'a toujours pas refait de tweet. Combien de temps mettra-t-il à faire une publication sur Facebook ou un reel sur Insta, et bien peut-être qu'on sera là pour en parler quand ça arrive.
Quel teaser, on va vous réinviter tous les deux. Merci beaucoup Catherine Gentil, je rappelle que vous êtes éditorialiste internationale sur TF1 et LCI. Et Thomas Huchon, je rappelle que vous êtes journaliste d'investigation, spécialiste des fake news. On peut retrouver votre format court Conspiration sur LCP, c'est le canal 13 de la TNT, votre livre anti-fake news en librairie. Et on salue la petite Isée après avoir salué le petit Achille. Merci d'avoir été avec nous en direct. Dans un instant, on va parler sport et médias avec Sacha Nokovic et sa chronique hebdo. Il va nous parler de la visibilité toujours difficile, compliquée des femmes dans les médias sportifs. Et Michael Jordan, lui, il n'a aucun problème pour sa retraite. Il a bientôt 60 ans, mais il y a Nike qui est avec lui. Puis on va retrouver Bruno Donnet pour ses télescopages. A tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Nous sommes en compagnie maintenant dans ce studio de Sacha Nokovic pour sa chronique sport média hebdomadaire qui va arriver dans quelques instants. Bonjour Sacha.
Bonjour Philippe.
Et je salue Bruno Donnet. Bonjour.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous scrutez ici les passions médiatiques. Et ce matin, vous êtes intéressé au traitement d'un sujet qui domine l'actualité depuis de longues semaines et pour cause, l'inflation.
Oui, c'est une petite musique, Philippe, à laquelle nous nous sommes collectivement habitués, tant les médias l'entonnent de concert. Depuis maintenant, une paye. L'augmentation des prix qui est traité tous les jours et même souvent plusieurs fois par jour dans les JT et les programmes d'information, toujours sous le même angle et avec le même refrain.
Tout a augmenté, la confiture en particulier, le lait, le beurre, le papier toilette, n'en parlons pas.
Eh ben si, parlons-en, justement, parlons-en, car je vous dois un aveu, Philippe, la couverture médiatique de ce sujet me dépasse totalement et constitue une énigme pour ma comprenette délicate. J'ai beau m'avaler des kilomètres de reportages sur l'inflation, je peine à en comprendre la mécanique et surtout les explications rationnelles. Toutefois, j'ai été un peu rassuré ce samedi en regardant Groland sur Canal+, car l'émission parodique s'est intéressée, elle aussi, au sujet. Elle a fait intervenir un faux patron des patrons qui a livré une analyse dont la conclusion m'a beaucoup plu.
Plus les Grolandais sont pauvres, plus nous les patrons sommes riches. L'inflation, la crise énergétique, enfin tout ça, ça plombe le pays. Et pourtant, nos salaires explosent. On n'y comprend rien.
On n'y comprend rien, a déclaré le faux patron du faux MEDEF, Groland. Et alors, ça m'a bien soulagé car moi non plus, je n'y comprends strictement rien. Jugez plutôt. Hier soir, le 20h de France 2 me l'a dit.
Les étiquettes continuent de flamber dans les supermarchés. Le panier de courses du 20h est en hausse ce mois-ci de 15,5% sur un an.
Les prix s'envolent. Bien. Pourtant, toujours sur France 2 et toujours dans le 20h, 2 jours plus tôt, c'était mardi, une journaliste a constaté ceci.
Dans les supermarchés, des produits de plus en plus chers. Alors que dans le même temps, le cours des matières premières chute.
Voilà, les prix du blé, par exemple, sont en chute libre grâce notamment à la très bonne récolte que viennent de réaliser les Australiens.
Le blé dégringole lui aussi. De 435 euros la tonne en mai à 280 euros aujourd'hui.
Et pourtant, le prix du paquet de nouilles est en hausse. Alors, comme on dit dans les JT...
Alors pourquoi cette baisse n'est pas répercutée sur le prix des produits ?
Excellente question à laquelle j'ai cru pouvoir trouver une explication dans cette information révélée il y a une quinzaine de jours.
C'est du jamais vu. Selon la lettre d'information financière Vernimmen.net, les sommes redistribuées aux actionnaires ont dépassé les 80 milliards d'euros en 2022.
Eh oui, je me suis dit, Mazette, si les actionnaires des entreprises du CAC 40 ont récolté 80 milliards d'euros, c'est qu'il y a dû y avoir de la spéculation. Et du reste, Michel-Édouard Leclerc, le patron des supermarchés du même nom, n'a pas hésité à dénoncer publiquement les méthodes des industriels.
Quand on invoque l'Ukraine, la guerre de l'Ukraine, pour justifier... L'augmentation du chocolat, du café, c'est vraiment du pipeau.
Bref, je pensais avoir enfin mis la main sur les coupables, ces affreux jojos d'industriels qui spéculent gaiement lorsque, patatras, la musique a changé. Figurez-vous qu'un député grand spécialiste des questions de consommation, il s'appelle Frédéric Descrozaille, a livré une information sur France 5 totalement contradictoire avec les propos de Michel-Édouard Leclerc.
Quand vous voyez ce qui s'est passé depuis un an, que les prix flambent, les prix des marques des distributeurs, en fait, ont augmenté.
Eh oui, le député a expliqué que les hypermarchés prenaient bien plus de marge sur les produits de leur propre marque que sur celles des géants de l'industrie.
La grande distribution favorise les marges sur ses propres marques. Et elle veut pouvoir continuer à écraser les marges des marques qui ne lui appartiennent pas.
Bref, moi qui croyais tenir enfin les vraies raisons de l'inflation et les responsables de la spéculation, je suis resté comme deux ronds de flanc. Cette analyse n'était pas la bonne. Néanmoins, Philippe, j'ai poursuivi mes investigations et... Et j'ai trouvé l'explication. Où ça ? Eh bien dans l'émission Groland, tout simplement, qui, elle, a mis la main sur le véritable coupable.
Le plombier chargé par le gouvernement de mettre en place le système de ruissellement et qu'il a installé complètement à l'envers.
Et voilà, si nous sommes inondés par l'inflation, c'est tout bonnement qu'un malheureux plombier s'est gouré lorsqu'il a installé la fameuse pompe à ruissellement.
Je suis désolé, j'ai inversé les flux sans faire exprès. Du coup, l'économie, elle a ruisselé du bas vers le haut. Les pauvres, ils ont été pompés à mort et le patronat, lui, il a carrément été inondé.
Les pauvres pompés à mort, le patronat inondé. L'économie ruisselle donc du bas vers le haut. Qui l'eût cru ?
Merci beaucoup, Bruno Danet, pour cette analyse sans faire exprès. J'adore, merci beaucoup. 9h48 sur Europe 1, on retrouve Sacha Nokovic et sa chronique Sport Média. Votre programme aujourd'hui, Sacha ?
L'opération sport féminin, toujours, c'est la semaine prochaine, mais d'ici là, focus sur la médiatisation du sport féminin en France. Vous allez voir qu'on a encore beaucoup de boulot. Et puis le film R sur le mariage de 84 entre Michael Jordan et Nike. On a enfin la date de sortie, mais ce matin, je vous parle de cette success story avec des chiffres à faire pâlir les sportifs encore en activité.
Mais alors pour commencer, et cette info, certains matchs de foot sont interdits de diffusion en France depuis quelques jours maintenant. Expliquez-nous ce qui se passe. Et comme dit Bruno Donnet, comment ça s'explique ?
Déjà, est-ce que vous êtes fan, messieurs, de l'Atalanta Bergame ?
Non.
Je ne sais même pas où c'est.
Comment ? À Bergame, en Italie, ouais.
C'est en Italie, voilà. Donc vous, déjà, pour l'instant, vous êtes tranquille. Mais pour les supporters français de cette équipe italienne donc, c'est la panique. Depuis le week-end dernier, l'Atalanta ne peut plus être diffusée sur la chaîne Bein Sport. La faute à son sponsor maillot, une marque, donc je vais éviter évidemment de citer le nom ce matin, qui est affichée en gros sur le pectoral des joueurs et qui n'est autre qu'une plateforme financière domiciliée à Chypre et qui propose des investissements à haut risque. Or, depuis 2016, la loi française interdit toute pub pour ces sociétés ou celles qui misent par exemple sur des investissements numériques comme la fameuse crypto-monnaie.
Ah oui ?
Ça, c'est interdit par le droit. Donc ça a mis un peu de temps, mais pour la première fois, le service de répression des fraudes de Bercy a décidé de frapper fort en mettant en demeure Bein Sport France de stopper la diffusion des matchs de l'Atalanta sous peine d'une amende.
Une grosse amende ?
100 000 euros par retransmission illicite.
Ah oui, quand même.
C'est pas le PV de Bruno Donnet quand il se garde n'importe comment en bas d'Europe 1.
Quelle balance.
C'est autre chose. Non, donc j'ai fait le petit calcul quand même. Si la chaîne est allée au bout des retransmissions jusqu'à la fin de la saison, amende quand même de 2 millions d'euros. C'est pas mal. En tout cas, c'est un premier cas qui pourrait pourrait faire jurisprudence et entraîner d'autres interdictions de diffusion à la télé française. Et forcément, ça en inquiète certains.
Oui, mais ça dépend aussi de l'équipe et du maillot. Moi qui suis fan de Verratti, qui joue au PSG, je dis ça pour les gens qui ne savent pas. Oui. Est-ce que je dois m'inquiéter? Est-ce qu'on va continuer à voir les matchs de Verratti sur Canal+, sur Amazon?
Mais vous êtes encore une fois tranquille, vous avez de la chance. Hein. J'ai regardé les sponsors maillots du PSG. Aucun d'entre eux n'entre dans la liste des cibles de Bercy. En revanche, j'ai fait le tour des autres équipes de Ligue 1. Et là, du côté Monaco, la question se pose. Sur le Rocher, le sponsor maillot principal, c'est aussi une plateforme financière, également répertoriée à Chypre, et qui propose de l'investissement à risque. Et justement, le problème, c'est que demain soir, il y a une grosse affiche en prime sur Canal+ Sport 360. C'est Marseille-Monaco. Donc j'étais un petit peu inquiet, j'ai appelé la chaîne. Pour l'instant, pas de remontée de Bercy. Idem du côté de la Ligue de football professionnel. Et du côté du ministère, on précise qu'il n'y a communication qu'une fois que la procédure a abouti. Donc ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'enquête en cours ou de plainte sur ces sponsors de Monaco ou d'autres équipes. Donc on va suivre ça forcément de près.
Et puis il y a la saison de F1 qui démarre en mars et il y a beaucoup de marques de crypto-monnaies qui sont sur les voitures. Il y en a même une qui a coulé, qui était sur le sponsor de je ne sais plus qui, de McLaren, je
on
crois.
On fera attention.
Autre chose, le film Air, sur l'histoire du recrutement de la star du basket Michael Jordan par la marque Nike, a dévoilé cette semaine sa date de sortie.
Le 5 avril, dans les salles américaines, à peu près à la même date en France, sûrement sur Amazon Prime Video. Au casting, on le savait déjà, c'est Ben Affleck qui réalise aussi le film. Il sera aux côtés de son pote Matt Damon dans les rôles des deux cofondateurs de Nike, Phil Knight et Sonny Vaccaro. La seule inconnue pour l'instant, c'est l'identité de l'acteur qui jouera Michael Jordan.
Ah bah oui, ça va pas être Matt Damon.
Pourquoi pas?
Il est trop petit.
je me lance pas dans la vie cinéma non plus. Je suis pas Olivier Benkemoun. Non, je vous parle du film ce matin. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'une des plus belles histoires, des plus folles histoires du sport business. Voilà, ça vous l'aurez reconnu peut-être. Les fans, en tout cas des Chicago Bulls, le savent. C'est la musique d'entrée de l'équipe en NBA. C'est avec elle que Michael Jordan a remporté tous ses titres. Et en 84, justement, il joue déjà aux Bulls quand il commence à se faire remarquer. Et comme beaucoup de joueurs NBA de l'époque, lui, il rêve que d'une chose, c'est d'Adidas comme sponsor. Et pourtant, c'est Nike qui réussit le tour de force de le signer avec un deal qui va amener à la création de la ligne de chaussures et de vêtements la plus connue dans le sportswear, l'une des plus bankable de l'histoire. Petite question, à votre avis, en ce moment-là, chaque minute, combien Nike gagne grâce à la marque Jordan?
Je ne sais pas, vous parlez depuis 2 minutes, alors on va voir.
Combien? Depuis 2 minutes, 20 000 dollars. 10 000 dollars par minute, 3 millions de dollars toutes les 5 heures, seulement grâce à cette marque. L'été dernier, la marque a annoncé un chiffre d'affaires record qui a rapporté, rien qu'à Michael Jordan, dans sa poche à lui, 150 millions de dollars en un an. Pour un retraité de 60 ans, c'est plutôt pas mal niveau pension. Vous voulez connaître la jeunesse de cette histoire?
Évidemment.
Et c'est rendez-vous au printemps en salle.
Oh, le teaser.
Avec le film Air de Ben Affleck et avec Ben Kemoun, Olivier, pour présenter le film. Ce sera cette fois lui dans Culture Média.
On parle maintenant de cette opération sport féminin, toujours opération qui encourage les médias à diffuser davantage de retransmissions sportives du genre, qui organise sa 10e édition. Ça sera du 30 janvier au 5 février et une étude récente montre que c'est plus nécessaire que jamais.
Oh oui Philippe, c'est l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel qui a révélé les chiffres d'une étude éloquente. Je commence quand même. Pas une bonne nouvelle, en attendant le bilan 2022, entre 2018 et 2021, la retransmission du sport féminin a progressé de 50% à la télé française. On se dit chouette. Le problème, c'est que ça représente que 4,8% de l'ensemble des retransmissions sportives. Alors c'est un peu mieux que la moyenne mondiale qui est de 4%, c'est déjà ça, mais en volume horaire de retransmission, c'est 16 fois moins que le sport masculin. Et je ne suis pas le seul à être perturbé par ce chiffre. Écoutez Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, c'était hier lors de la conférence de presse.
Et j'avoue que le x16, l'écart de... J'ai envie de dire, divisé par 16, j'aurais dire, est quand même très perturbant.
Voilà, tout aussi perturbant, c'est la représentation des femmes à la télé et à la radio dans les émissions de sport. Seulement 20% selon l'ARCOM, alors qu'on atteint pratiquement la parité dans les autres programmes comme l'info, le divertissement. Et lorsque les femmes ont la chance d'intégrer une émission de sport, un show, c'est pas non plus gagné pour elles puisque leur temps de parole est en moyenne plus faible que celui des hommes tout le temps en proportion. C'est un outil d'intelligence artificielle entre l'ARCOM et l'INA qui a été créé par eux, qui a permis de faire ce triste calcul. Voilà, le chemin est encore long, mais on avance sur certains points, comme le commentaire. Regardez, je suis allé vous chercher le tout premier reportage sur un match de foot féminin. On est à la télé française en 1955.
Quant à l'autre, son indéfrisable lui interdit de faire une tête. Et puis, tout compte fait, pourquoi ne pas rentrer à la maison faire le ménage?
la chute.
On a progressé quand même.
Et sans ironie, le gars, il est premier degré. Hein.
Ah, oui, oui.
Pour finir, une info toute fraîche qui est sortie hier soir, tombée hier soir comme on dit, qui concerne le fameux show du Super Bowl, la célèbre finale de foot américain.
Et oui, ce sera le 12 février avec toujours, vous savez, ce show monumental à l'américaine. On savait déjà que le concert de la mi-temps, bah, ce serait Rihanna. Mais l'info toute fraîche qui est tombée hier, c'est qu'il y aura un concert avant le coup d'envoi.
Je sais.
Vous le savez.
Je sais qui c'est.
En Mondiovision, ouais. Et ce sera un Frenchie, et ce sera lui. DJ Snake,
ouais.
Vous l'avez reconnu?
Je l'aurais pas reconnu, je connaissais pas ce titre, mais je connaissais l'info.
Bah, c'est le français le plus écouté de la planète, donc on peut être fier, messieurs.
Merci beaucoup Sacha, et on est fiers de vous retrouver vendredi prochain dans Culture Média. D'ici là, on peut bien sûr vous lire dans l'équipe. Culture Média, ça continue évidemment sur Europe. Après les infos de 10h, notre invitée est la comédienne et écrivaine Macha Merrill. On parle de sa pièce de théâtre à venir, s'appelle Une étoile, dans laquelle elle incarne une ancienne danseuse étoile. Et puis dans les indispensables, Héloïse Goua va venir nous parler d'une série américaine autour du striptease masculin. Et Olivier Benkemoun d'un film qui pourrait bien rafler quelques Oscars. Jean-Luc Lemoine sera là aussi pour sa session de rattrapage. À tout de suite.